C'est une parole de consolation, une parole d'espérance, une parole de guérison qui veut frapper à la porte de nos cœurs ce matin. Parce que c'est cette parole qui a été prononcée par le prophète Ésaïe, une parole qui ne cesse de faire du bien, car elle n'est pas la parole d'un homme, mais elle n'est pas non plus la parole d'une église, la parole d'une idéologie, c'est la parole de Dieu, la seule qui est capable de guérir, de réconforter. C'est une parole semblable à ces 10 paroles qui, au commencement de toute chose, a amené tout ce que nous voyons sur terre. De la poussière de la terre, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et quand le souffle de Dieu est passé sur Adam, alors il est devenu un être vivant, aimé de son Créateur et capable à son tour d'aimer le Seigneur. C'est cette parole que je lirai dans le prophète Ésaïe au chapitre 42, au verset 3, la parole de l'Éternel, la parole du serviteur de l'Éternel, la parole par excellence. Il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. C'est cette parole ce matin qui veut faire son travail de consolation dans nos cœurs et dans nos âmes. C'est vrai qu'au début, Dieu avait créé Adam à son image et l'avait rendu capable d'entendre sa voix et de répondre à cet amour. Malheureuse créature qui, en un instant, préférèrent obéir plus à la voix du tentateur qu'à la voix de leur Seigneur. Et leur relation avec Dieu se brisa instantanément dans le jardin d'Éden. Et par la suite, voyant ce que notre vie était devenue il y a 2000 ans, l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux de la Genèse est venu couvrir de son ombre la Vierge Marie. Et dans la profondeur de la nuit de Noël, nous dit l'Évangile de Jean, la parole de Dieu devint chair. C'est cette parole prononcée au début de toute chose, incarnée par la suite en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cette parole que le prophète Ésaïe annonce en son temps, cette parole qui ne cesse de faire du bien à toutes les générations, cette parole du serviteur de l'Éternel par excellence de ce Jésus que le Père a tant aimé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette parole qui ce matin veut s'adresser à ceux dont la vie ressemble à un roseau cassé ou à une lampe qui fume parce qu'elle est sur le point de s'éteindre. Pourquoi de telles paroles de consolation ? Pourquoi ce message ? Parce que en Jésus, Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu grand, ce Dieu fort, ce Dieu a partagé en Jésus la fragilité de notre nature humaine, semblable à un roseau fragile ou à une mèche qui vacille parce qu'elle est sur le point de s'éteindre, pour nous montrer ce qu'il pouvait encore faire de nos vies brisées, pour nous montrer ce qu'il pouvait faire alors que peut-être pour nous tout espoir semble perdu. Mais si lui-même, en partageant notre fragilité humaine, a été brisé au calvaire pour nos iniquités, il est ressuscité 3 jours après. Si la lumière du monde a vacillé quelques instants lorsqu'il est entré pour quelque temps dans la tombe au matin de Pâques, aux premières lueurs, il en est ressorti victorieux. Bien avant que Pascal n'écrive « L'homme est un roseau, mais c'est un roseau le plus faible de la nature, c'est un roseau pensant », Ésaïe, le prophète, comparait l'homme à un roseau. Job L'auteur du livre de la Bible, au chapitre 8 de son livre et au verset 11, souligne que le roseau pousse généralement dans l'eau des marais. De même que le roseau enfonce ses racines dans les profondeurs vaseuses d'un marécage pour y puiser ses forces, eh bien, le cœur de l'homme, à sa manière, plonge ses racines dans le bourbier de ses valeurs nauséabondes de ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons. Et de même que le roseau, pour vivre, absorbe l'eau putride d'un marais, l'homme, l'âme de l'homme, hélas, désaltère son âme d'une eau fétide autant que pestilentielle, distillée par ses citernes crevassées qu'annonçait le prophète Jérémie. C'est vrai que la vie de l'homme ressemble souvent à un roseau agité par le moindre souffle de vent. L'homme est agité par le moindre souffle de ses passions intérieures, ou alors ébranlé par les vagues de ces tempêtes qui agitent, qui surprennent sa vie, au point que l'apôtre Paul dira de certains hommes dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 et verset 14 que certains hommes sont comme des enfants flottants, emportés au vent de toute doctrine. Que faire quand tout va mal? Que faire quand le vent de l'adversité souffle en rafale sur son âme? Voyez les roseaux des marais. Ils s'inclinent tous dans le même sens, dans la même direction. Ne pouvant plus regarder le ciel, eh bien, ils se tournent vers la terre. Et puis, quand le vent devient trop fort, ils s'inclinent encore plus et se couchent carrément à terre. C'est quand l'homme, qui ressemble souvent à ce roseau décrit par le prophète, c'est quand l'homme est réduit à cet état de grande faiblesse physique, morale ou spirituelle, c'est quand il est à terre, quand il est écrasé, quand il est désemparé, c'est alors que le message de l'Évangile peut prendre toute sa dimension dans un cœur, car c'est cette parole que le prophète Isaïe annonce. Le serviteur de l'Éternel ne brisera pas le roseau cassé. Ou selon une autre traduction, il ne foulera pas aux pieds le roseau froissé. C'est-à-dire que Dieu, dans sa bonté, dans son amour, n'augmentera jamais la pression du tourment qui pèse sur celui qui est dans le malheur. Dieu n'ajoutera jamais aucune punition, aucune condamnation à celui qui est abattu par l'épreuve. Au contraire, avec l'Évangile, Dieu cherche à insuffler un autre sens à la vie de celui qui est abattu en montrant qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, en affirmant que tout est possible à celui qui croit, même la capacité de se redresser lorsqu'on est à terre, même la faculté de regarder enfin aux choses d'en haut et d'appeler Père celui qui est dans le ciel en devenant l'un de ses enfants. Que peut-on faire d'un roseau qui a été courbé par le vent, tellement que maintenant il pousse de travers, tellement qu'il est à moitié brisé, à moitié cassé, et qu'il touche le sol. Il ne sert plus à grand-chose, il peut être piétiné par des passants, par des animaux. Il en est un qui fait attention, même à cette petite chose qui est par terre. Car aux yeux de Dieu, rien n'est trop petit pour que son amour se manifeste lorsqu'il s'agit de l'un d'entre nous. D'un roseau cassé, d'un roseau qui est froissé, Dieu peut encore l'utiliser parce que le Seigneur est encore capable de redonner vie à ceux que l'adversité a courbés ou jetés à terre. Voyez le paralytique dans la piscine de Bethesda de Jérusalem. Il est là depuis 38 longues années, couché sur son grabat posé à même le sol. Y a-t-il un roseau plus courbé que cet homme depuis si longtemps? Il est abandonné de tous. Que connaît-il de Jésus? Probablement pas grand-chose. Et cependant, une seule parole de Jésus va réveiller en lui l'écho d'une espérance jusque-là assoupie. « Veux-tu être guéri ? » Une étincelle de foi parcourt alors son âme qui allume et quelque chose qui va se propager, un feu qui va lui redonner l'énergie et la vie. C'est suffisant. En un instant, il se lève, il est instantanément guéri quand Jésus va lui dire « Lève-toi et marche ». Quelque chose vient de se passer dans sa vie. Et mon frère, si ce matin Jésus te disait que ta servitude est finie, que tu n'as plus à vivre plié, courbé, s'il te demandait, comme au paralytique de Bethesda, veux-tu être guéri? S'il te disait ce matin de te lever, de prendre ton lit et de marcher, que ferais-tu? Quand bien même ta vie, quand bien même le roseau de ta vie serait brisé en mille morceaux, ne sais-tu pas que même d'un roseau cassé, si les hommes peuvent faire un instrument de musique, un genre de flûte ou une anche pour un instrument de musique, Dieu peut faire encore quelque chose de plus merveilleux que cela. Et si tu devenais entre les mains du divin potier comme de l'argile qui va prendre forme, si tu devenais dans les mains du grand musicien de nos âmes un instrument docile qui est capable de louer, de bénir et de chanter un cantique nouveau à la gloire du Seigneur. Avez-vous déjà essayé de couper un roseau? Si extérieurement le roseau est bien dur, intérieurement il est rempli de vide, il est rempli de creux. Certains disent que le roseau compense son vide intérieur par sa dureté extérieure. C'est souvent la même chose chez les hommes. Et souvent, ce qui ont une carapace dure, en fait, ont cette carapace pour masquer leur grande faiblesse, leur grand vide, leur manque de fermeté intérieure. Ah, mon frère, laisse donc la main du Seigneur se poser sur ta vie. Laisse son doigt se poser là où ça fait mal, sur ces quelques trous qui remplissent ta vie. Laisse-le entrer dans ton cœur. Laisse entrer dans ton âme l'espérance, la foi, la charité, toutes ces valeurs dont il veut remplir ta vie. Et bientôt, ce ne sera plus le vent de l'épreuve qui tirera de ton âme les larmes amères de la souffrance, mais ce sera le souffle béni de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit qui viendra en toi, comme il est venu sur Adam, lorsqu'il est devenu un être vivant qui viendra souffler sur ta vie pour en tirer les accents bénis d'un chant mélodieux à la gloire du Seigneur, la louange, l'adoration, au lieu des plaintes et des lamentations, les remerciements au lieu des demandes. Voilà ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Si avec l'image du roseau cassé, Ésaïe décrit de quelle manière Dieu peut intervenir en faveur de ceux qui sont confrontés à des problèmes extérieurs. Avec l'image de cette lampe à huile, le prophète va maintenant nous montrer de quelle manière Dieu veut intervenir en faveur de ceux qui ont des problèmes intérieurs. Le roseau était soumis au vent. La lampe à huile, c'est ce qui se passe au sein de cette lampe qui va poser problème. La lampe à huile dont parle le prophète, cette lampe qui fume, c'est l'image de ceux qui ont pu connaître la grâce de Dieu en son temps. Ils ont pu être des modèles de foi, devenir des modèles spirituels dans leur entourage, dans leur église. Et puis, la pression de la vie qui passe leur en a trop demandé. Lutte, tentation, difficultés se sont amoncelés comme autant de pièges. Oh, sans les courber ou les mettre à terre comme le roseau dont nous venons de parler, mais en les rendant semblables à cette lampe à huile qui n'a plus d'huile dans sa réserve. Qui a brûlé ses réserves? Alors ces croyants, depuis quelque temps, marchent à vide. Le réservoir vide, une voiture peut encore rouler dans les descentes. C'est pas recommandé. J'en vois déjà qui ont imaginé faire de grandes économies, mais non. Parce qu'à la moindre remontée, à la moindre côte, eh bien, la voiture finira par s'arrêter. Et si le frein ne fonctionne pas, elle va redescendre. Croire sans y croire. Prier sans avoir foi dans les promesses. Lire la Bible sans rien y comprendre, parce qu'on la lit comme un journal ou un roman. Venir dans l'église par routine, par habitude. Combien de chrétiens vivent les dernières lueurs tremblotantes d'une vie chrétienne pourtant bien commencée? Le réservoir vide. Ne sont-ils pas sur la pente du chemin large et spacieux de celui qui descend, de celui qui conduit les enfants des ténèbres à la perdition éternelle? Mais que fais-tu sur ce chemin qui descend? C'est le chemin étroit, qui est dur peut-être, qui est resserré, mais c'est celui-là qu'il faut savoir emprunter. Une lampe qui fume encore, une mèche qui brûle encore. On parle beaucoup de nos jours des problèmes de santé causés par le tabac. Pourquoi est-il maintenant interdit de fumer dans les lieux publics? Parce que la fumée est néfaste, non seulement pour ceux qui fument, mais pour ceux qui ne fument pas. Je me souviens du temps où dans les hôtels, il n'était pas encore interdit de fumer. Et quand on entrait dans une chambre avec de la moquette qui avait été occupée par un ancien fumeur, on avait beau aérer, ça sentait. Mais voyez, le pire, ce n'est pas encore cela, c'est probablement un mégot mal éteint dans un cendrier. Ça peut répandre son odeur dans tout l'appartement. Il n'y a pas de fumée sans feu, disent les uns. Eh bien, Ésaïe nous dit à peu près le contraire. Il y a de la fumée, mais il n'y a plus de feu, il n'y a plus de lumière. Le lumignon, il n'éclaire plus. Il n'y a pas de feu dans la mèche, mais elle fume. Le lumignon qui brûle encore, cette lampe à huile qui brûle encore, Eh bien, c'est parce qu'elle n'a plus d'huile à brûler. Et que, n'ayant plus d'huile dans son réservoir, eh bien, elle brûle sa mèche. Cette lampe à huile qui fume, c'est l'image d'un croyant qui, au lieu de répandre la bonne odeur de l'Évangile, cette odeur de paix, d'amour, de fraternité, dégage une odeur pestilentielle de mort, de zizanie, de doute, d'incrédulité, un relent de corruption, de perdition, bref, qui dégage le parfum préféré des enfants des ténèbres. Quel drame pour un enfant de Dieu. Répandre cette odeur nauséabonde, cette mèche qui brûle encore, ce lumignon qui est éteint et qui brûle en répandant sa fumée, c'est l'image du croyant dont la vie ne tranche plus sur son environnement, sur les incroyants de ce monde, qui ne tranche pas plus sur les autres qu'une lampe à huile éteinte placée dans les ténèbres, dont la lampe fume encore parce que, eh bien, elle consume les derniers bouts de sa mèche. Une lampe à huile du temps du prophète Ésaïe était constituée d'un récipient, généralement en argile, et d'une mèche et d'huile. Peu importe la beauté et la décoration de la lampe à huile, peu importe son esthétique, ce qu'il fallait, c'était de l'huile et puis une mèche. Quand on veut s'éclairer avec une lampe à huile, eh bien, deux choses comptent. La longueur de la mèche et le niveau d'huile. C'est sûr que de nos jours, ils sont peu nombreux ceux qui s'éclairent à la lampe à huile. Mais je me souviens que, j'allais dire dans mon temps, quand j'étais plus jeune, on avait des lampes à pétrole et il fallait régler la hauteur de la mèche. Et c'est vrai que si on en mettait trop, bien, c'était la mèche qui brûlait, il fallait mettre juste ce qu'il fallait de longueur. Que veut dire le prophète en parlant de cette mèche qui brûle encore et qui est sur le point de s'éteindre, c'est-à-dire qui fume? Une mèche, une lampe à huile peut fumer parce que sa mèche est trop longue ou trop sale, c'est-à-dire parce que sa mèche comprend trop de parties consumées. Et pour éviter qu'elle fume, eh bien, il suffit de la couper légèrement et puis elle va retrouver son éclat d'origine dans la maison de Dieu, dans le tabernacle du désert ou dans le temple de Jérusalem. La lumière du grand chandelier qui éclairait le lieu saint était régulièrement entretenue par le sacrificateur. Mais le sacrificateur, s'il avait une mouchette ou des ciseaux d'or, n'avait pas d'éteignoir. Il se contentait de couper ce qui était carbonisé. Que fait donc le serviteur de l'Éternel dont parle Ésaïe en voyant un croyant dont la vie spirituelle ressemble à une lampe à huile qui fume parce que sa mèche est trop longue? Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore, qui fume encore. Mais avec un genre de ciseau, eh bien, il coupera la mèche trop longue. Il coupera les parties de la mèche qui sont carbonisées, qui sont calcinées, pour que la mèche puisse à nouveau éclairer. Ah, mon frère, ma sœur, laisse donc les divins ciseaux du souverain sacrificateur de nos âmes retrancher les déchets qui encombrent ton cœur. Laisse-le raccourcir en toi tout ce qui s'est élevé, Tout ce qui s'est enflé d'orgueil laisse-le crever les abcès, dont le venin empoisonne ton cœur. Pourquoi traîner comme autant de boulets toutes ces rancunes, tous ces ressentiments, tous ces doutes, tous ces mauvais comportements? Pourquoi ne pas régler une fois pour toutes ce qui fait dérailler ta vie? Une lampe à huile peut également s'éteindre en faisant de la fumée, parce que l'huile qu'elle brûle ou bien est de mauvaise qualité ou bien est épuisée. Si l'huile est de mauvaise qualité et qu'elle est trop visqueuse, elle aura du mal à monter par capillarité dans la mèche, et dans ces conditions, eh bien, la mèche va charbonner pour finalement se carboniser et faire de la fumée. Eh bien, que fait le serviteur de l'Éternel devant une lampe à huile qui va s'éteindre parce qu'elle brûle, une huile qui est de mauvaise qualité? Il ne s'abroche pas avec un éteignoir pour tout éteindre, mais avec un vase rempli d'une huile de première qualité, de ce genre d'huile venue d'en haut, de ce genre d'huile qui a renouvelé le cœur d'un David, un David pécheur, et qui lui a donné un esprit bien disposé, qui a recréé en lui un cœur pur, qui lui a redonné la joie de son salut. Une lampe à huile peut s'éteindre parce qu'elle n'a pas assez d'huile, parce qu'elle a épuisé sa réserve. Alors que fait le serviteur de l'Éternel dans ce cas? Il ne s'approche pas pour punir, pour condamner, pour châtier ceux qui, comme les croyants de l'église d'Éphèse dont parle le livre de l'Apocalypse, ont perdu leur premier amour. Non. Selon le chapitre 61 du prophète Ésaïe, le serviteur de l'Éternel s'approche pour consoler les affligés, pour remplir ceux qui sont vides d'une huile de joie, pour donner un esprit de louange à ceux qui sont abattus. Le prophète Ésaïe nous rappelle une extraordinaire promesse ce matin. C'est que Dieu n'éteindra jamais le peu de foi qui peut nous rester, le peu de disponibilité que nous avons encore pour le prier, pour lire la Bible, le peu d'envie que nous pouvons avoir encore pour faire sa volonté, pour venir dans sa maison, parce que nous conservons toujours, même au plus profond de notre égarement, de notre refroidissement, de notre éloignement, de notre indifférence aux choses de Dieu, nous conservons toujours une parcelle de ce que nous avons reçu de Dieu. Amen. Certains s'imaginent que Dieu dépend de notre bon vouloir pour accomplir ses plans. C'est vrai et c'est faux à la fois. En fait, la volonté de Dieu pour s'accomplir, pour se réaliser, dépend des hommes et des situations. Voyez, d'un côté, nous voyons Samuel qui va répondre à l'appel de Dieu dans sa plus tendre enfance. Nous voyons Timothée qui va répondre à l'appel de Dieu dans sa jeunesse. Il va connaître les saintes lettres dès son enfance, celles qui l'ont rendu sage à salut par la foi en Jésus-Christ. D'un autre côté, nous voyons Pierre qui, par trois fois, a renié son maître, être renouvelé dans le service du Seigneur. Nous voyons un Saul de Tarse, persécuteur des premiers chrétiens, ennemi de l'Évangile, brisé par Dieu sur le chemin de Damas, et devenir un des plus grands apôtres, un de ceux qui va répandre l'Évangile jusqu'en Europe. Que dire du père des croyants, d'Abraham, qui pensait engendrer le fils de la promesse avec une autre femme que la sienne? Que dire de Moïse qui pensait aider ses frères hébreux, alors esclaves de Pharaon, en tuant un Égyptien. Que dire de Samson, qui fréquenta une prostituée de Gaza? Que dire de tous ces héros de la foi dont nous parle la Bible? Que dire de leur vie? Eh bien, la leçon de tout cela, c'est que Dieu ne refuse jamais d'utiliser des matériaux de récupération pour former son peuple. Dieu est capable de récupérer celui qui est brisé, celui qui est à terre, celui qui est écrasé, comme David qui a péché. Il est capable de le renouveler pour former non seulement son peuple de l'ancienne alliance, mais aussi pour construire son Église du Nouveau Testament. Et quand nous disons que Dieu est capable aussi d'utiliser des matériaux de récupération pour former son peuple, nous pourrions dire que c'est plus souvent la règle, tant il est vrai dans la Bible que Dieu en fait beaucoup plus pour les pécheurs que pour les saints. Parce que quand même, c'est pour les pécheurs que Christ est venu. C'est pour un peuple rebelle et indocile que Dieu n'a cessé d'envoyer des prophètes. C'est un peuple aux coups raides que Dieu a envoyé un serviteur comme Moïse, qui pendant toute la traversée du désert a été l'objet de discussions, de contestations. Et pourtant, c'est avec les Hébreux que Dieu s'est formé son peuple. Ah, souvenons-nous, mes frères et sœurs, que Dieu en fait bien plus pour les pécheurs que pour les saints. Et cela doit nous réjouir, non pas nous encourager à pécher encore plus, mais à nous réjouir devant tant d'amour, devant l'amour de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu fait en faveur de son peuple. Dans la société actuelle, on choisit les meilleurs pour gagner. Avec Dieu, c'est parfois différent. Vous voyez comme l'apôtre écrit, Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. En fait, il semble que la faiblesse personnelle soit la clé de la vie chrétienne victorieuse. Le problème, ce n'est pas notre faiblesse qui est là, mais notre manque de volonté à reconnaître notre faiblesse. L'apôtre disait, mais c'est quand je suis faible que je suis fort. Vous savez, Jésus n'a pas été surpris quand Pierre l'a renié, pas plus qu'il n'est surpris par nos manquements, par nos défaillances, par nos faiblesses. D'une certaine mesure, Dieu attend nos manquements, nos faiblesses pour nous renouveler et nous utiliser, tout en priant pour chacun d'entre nous, comme il a prié pour Pierre, pour que notre foi ne défaille pas. C'est parce que Dieu sait ce que notre vie pourrait devenir. Si nous acceptions enfin de répondre pleinement à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, que le serviteur de l'Éternel agit avec autant de délicatesse envers nous, et qu'il ne brisera pas plus le roseau cassé qu'il n'éteindra la lampe qui vacille et qui fume encore. Ah, s'il s'approche de toi ce matin, c'est pour que ta foi ne te fasse pas complètement défaut. C'est pour que le peu qui te reste encore de zèle, de dévouement, se multiplie, soit renouvelé. Il veut venir dans ta vie pour te faire chanter un cantique nouveau. S'il s'approche de toi ce matin, c'est parce qu'il veut ranimer cette petite étincelle prête peut-être à s'éteindre. Il veut renouveler cette huile qui est en toi. Il veut raccourcir cette mèche qui est peut-être remplie de scories. Il veut te renouveler dans la dimension de son esprit. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu veux encore faire dans chacune de nos âmes. Que ta grâce et ta paix soient sur ceux qui en ont besoin. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont semblables à ce roseau ou à cette mèche qui fume encore, afin que ta grâce, que ta puissance, que ton esprit se manifestent dans leur vie et dans leur âme. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.